Bon midi, mesdames et messieurs. Félix-Antoine Parent qui vous accompagne sur cette heure de dîner. C'est toujours un plaisir pour moi de le faire et d'aller creuser différents sujets, différents enjeux, d'aller au fond des choses, d'en jaser, de regarder les effets aussi des fois de décisions qui sont prises dans la région. On va avoir un bel exemple de ça aujourd'hui, alors qu'on parlera tout à l'heure avec Jean Bernatché. Il est professeur au département des sciences de l'éducation à l'Université du Québec. On va jaser avec lui de l'ajout d'une semaine de relâche. Ça a été annoncé par le Centre de services scolaires des Hauts-Bois de l'Outaouais la semaine du 11 novembre 2024. Mettez ça à l'agenda, les parents. Ce sera une semaine de relâche. C'est nouveau. Si vous dites, il n'y a pas de semaine de relâche en novembre. Il y a juste les fous qui changent pas d'idée. On en a ajouté une. C'est une pratique, on va le voir, qui est répandue quand même à travers la province, qui a fait son chemin il y a quelques années dans le système privé en éducation. Et là, qui arrive dans le système public, tranquillement, pas vite. Et c'est adopté. En tout cas, on le met à l'essai chez nous pour l'année 2024-2025. Donc, il en sera question. On recevra Maëlle Boulet-Prézeau. Elle est économiste pour le Mouvement des Jardins au sujet des prévisions économiques pour la vallée de la Gatineau. On regardera aussi au niveau macroéconomique. Donc, Canada, États-Unis, Québec. Et on finira ici avec un portrait Outaouais, vallée de la Gatineau. Elle était l'invitée là, du déjeuner de la semaine dernière organisé par la Chambre de commerce de Maniwaki et vallée de la Gatineau. Mais d'entrée de jeu, et c'est un plaisir de le recevoir dans nos studios. Il s'agit d'André Fortin, qui est député de Pontiac. Donc, c'est la circonscription voisine. Pourquoi on le reçoit? Ben, parce qu'il était de passage chez nous. Il s'en va passer les prochains jours du côté de l'Abitibi. Il va parler d'agriculture, de santé, entre autres. Donc, on veut lui en jaser de ses dossiers. Puis, on va aussi parler de certains des dossiers qui nous intéressent. On a aussi notre agenda à ce niveau-là. On va parler du transfert de postes de fonctionnaires en région, les solutions apportées aussi pour aider les propriétaires de résidences situées en zone inondable. Donc, ça risque d'être fort intéressant. André Fortin, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien vous-même?
Ben oui, je suis content d'être ici. On se parle souvent, mais j'ai pas souvent la chance d'être en personne avec vous, alors je suis content d'être là en studio.
Ben c'est un plaisir partagé. Et je sais qu'un des sujets que vous allez jaser, et j'en ai parlé avec Martin Caron, le grand président de l'UPA l'autre jour, les difficultés des agriculteurs, c'est vraiment là. J'ai vu des chiffres, on parlait du produit net agricole au Québec qui était à 1 milliard en 2022, qui va passer à 66 millions. J'ai relu la phrase 2-3 fois parce que je me disais, ça n'a pas de bon sens. Faut faire quelque chose, là.
Oui, moi aussi, j'ai vu les mêmes chiffres que vous. Puis on a tendance à dire les chiffres sont tellement... C'est tellement un grand écart que ça se peut pas, mais c'est des statistiques qui viennent d'Agriculture Canada qui disaient essentiellement que le revenu agricole cette année par rapport à il y a 2 ans pourrait diminuer d'environ 86 %. Moi, je connais pas grand monde qui resterait dans leur job s'ils perdaient 86 % de leur salaire, de leur revenu. Alors, il y a vraiment une pression énorme sur les agriculteurs. Puis c'est comme ça chez nous, c'est comme ça ici, chez vous, dans la Haute-Gatineau, puis c'est comme ça en Abitibi. Un des dossiers que je vais aller pousser là-bas, c'est justement celui des abattoirs. Ils ont un abattoir de proximité en Abitibi, puis il vient de fermer parce que c'est pas profitable, c'est pas appuyé par le gouvernement. Donc, ça prend une vraie réforme des programmes d'agriculture pour les adapter au goût du jour. Puis dans des régions où l'agriculture n'est pas toujours simple, c'est peut-être pas toujours les meilleures terres, il faut pousser la réflexion encore plus loin, ce que le gouvernement n'a pas fait jusqu'à maintenant.
Ça passe par quoi, d'après vous? Parce que là, il y a les assurances qui s'envolent. Tu sais, c'est très difficile de faire assurer des bâtiments. On a le coût des intrants, la main-d'œuvre, le salaire de la main-d'œuvre, mais la trouver aussi, cette main-d'œuvre-là. Souvent, on fait affaire avec des gens dans d'autres pays qui viennent travailler chez nous. C'est pas simple de trouver une solution parce qu'en fait, c'est pas une solution. J'imagine ça va être un ensemble de solutions.
Bien, c'est exactement ça. Puis on dirait que ça s'accumule pour les agriculteurs. Là, leurs problèmes sont faciles à identifier. Difficulté d'avoir des travailleurs, coût des intrants, difficulté au niveau du climat aussi, qui est très difficile. Ouais. En Abitibi et au Témiscamingue, c'était la sécheresse l'an dernier. Dans le reste du Québec, c'était des pluies diluviennes. Ouais. Donc, il y a des enjeux qui étaient peut-être moins présents, mais une des choses qu'on se rend compte au fil de nos discussions avec les agriculteurs, c'est qu'il faut changer les programmes de la financière agricole. Ils ne sont plus adaptés. Aujourd'hui, par exemple, je vais le dire comme ça, c'est la première fois où il y a plus que 50 % des nouveaux producteurs agricoles qui doivent avoir un emploi à l'extérieur pour payer soit les dettes de la ferme ou payer leurs activités agricoles. Mais quand ils vont chercher une job ailleurs, on leur coupe 50 % de la subvention. Mais ils n'ont comme pas le choix. C'est le genre de truc qui marchait peut-être il y a 25 ans quand tout le monde travaillait à la ferme et c'était un revenu d'appoint qu'on allait chercher. Là, c'est plus ça. On est dans une dynamique différente. Alors, c'est le genre de truc qu'il faut changer à la financière agricole.
Puis je vois le problème où la relève regarde ça. Tu sais, c'est comme dans les, bon, le monde de l'enseignement, le monde de la santé, le domaine de la santé aussi. Des fois, on regarde ça et on se dit « Ouf, ça me tente-tu de devenir infirmière? Ça me tente-tu de devenir prof? » Ben là, on se dit « Est-ce que ça nous tente de devenir agriculteur? » On n'a pas de vie. Je les salue, je leur parle, j'ai des amis qui le font, mais ils n'ont pas de vie. T'sais, moi, j'ai un de mes chums qui est agriculteur depuis ce temps-là, je ne le vois plus. Il travaille du matin au soir, il est fatigué, il rush, puis il a besoin d'avoir un deuxième emploi également. Parce que, donc, cette relève-là, j'imagine que d'ici 10-15 ans, ça va peut-être même moins long que ça, mais ça va devenir un réel enjeu parce qu'ils nous nourrissent, on en a besoin, puis on ne peut pas nécessairement pour toujours importer des fruits du Mexique, de la Floride, avec les changements climatiques, les enjeux environnementaux. Faut maximiser notre production ici, puis j'ai l'impression que c'est comme le contraire qui se passe en ce moment-là.
Mais c'est absolument le contraire qui se passe. Moi, de ce que je comprends, ça va être incroyablement difficile d'avoir cette année, par exemple, des asperges du Québec parce qu'on va manquer de travailleurs étrangers, parce qu'on va manquer de relève, parce qu'il y a toutes sortes d'enjeux, parce que la réserve était peut-être déjà amoindrie de l'an dernier. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux comme si la production était amoindrie de l'an dernier. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux comme ça qui font en sorte que ça va devenir de plus en plus difficile. Puis c'est vrai ce que vous dites, la pression sur les agriculteurs, elle est énorme. Le nombre de fois où on demande à un ami agriculteur « Veux-tu venir prendre une bière un vendredi soir? » Puis il nous dit « Impossible, ça n'arrivera pas, j'ai pas le temps, j'ai plein d'affaires à faire. » Mais il y a du monde qui sont prêts à le faire. Il y a du monde qui veulent le faire, qui veulent continuer la tradition familiale, qui veulent se lancer là-dedans, mais dans des conditions qui ont de l'allure. Il faut s'assurer que, un, ils ont un revenu qui est relativement stable, mais aussi qu'ils ont le temps de penser à eux autres. Il y a eu beaucoup de discussions sur la santé mentale des agriculteurs au cours des dernières années. À Shawville, dans mon coin, il y a deux agriculteurs qui se sont suicidés la même année parce que la pression était devenue intenable. C'est pas la pression comme vous et moi. Si on arrête de faire notre emploi demain, c'est ça qui est ça. Mais si on arrête de cultiver la terre familiale qui est là depuis quatre générations, il y a une pression familiale, patrimoniale là-dessus. Donc, c'est pas... Non, c'est pas un milieu qui est simple. Alors, on a un devoir de l'encourager, de tout faire en sorte pour que les gens qui veulent s'y investir puissent réussir.
Vous voulez aussi, du côté de l'Abitibi, du Témiscamingue, jaser de la santé.
Pour en jaser n'importe où.
Que c'est des enjeux qui sont partout. Y a-t-il des enjeux particuliers qui se rejoignent ici et là-bas?
Oui, les difficultés d'accès en milieu rural, ça, c'est un peu partout. Mais ils ont perdu beaucoup de services en Abitibi au cours des dernières années. On va se reconnaître là-dedans, en Outaouais rural aussi. Là, c'est pas simple. Les distances sont grandes. Donc, comment est-ce qu'on réussit à attirer des professionnels en région, à les garder là? C'est leur problème, c'est le nôtre aussi. Là, il y a beaucoup de gens qui quittent soit pour aller travailler en ville, soit pour aller travailler ici. Ben, chez nous, c'est en Ontario. Il y a des gens qui quittent la profession parce que c'est juste encore là, trop de stress, des heures pas prévisibles, etc. Donc, les conditions de travail autour de ça font en sorte que les patients en souffrent parce qu'ils doivent se déplacer de plus en plus. Puis entre vous, moi, puis à Boîte à Bois, il n'y a pas grand monde qui aime ça se déplacer vers l'hôpital de Hull ici. Puis c'est la même chose pour eux autres. Là. Donc, il faut trouver moyen de rendre les professions plus intéressantes. Je pense que c'est ça notre... Puis ça se recoupe en agriculture comme en santé, mais c'est un peu notre grand défi du moment. C'est comment est-ce qu'on rend les professions qui sont indispensables au Québec intéressantes puis incontournables pour la relève.
Je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec les récentes manifestations, les grèves puis les nouvelles conventions collectives, on a réussi à faire des gains suffisants qui vont peut-être changer l'environnement de travail pour le mieux?
Bien, je pense qu'on va le voir. Parce que là, je présume pas de ce que les infirmières vont faire au moment de leur vote. Là, il y en a qui sont encore en instance décisionnelle autour de tout ça. Mais il y a quand même, je vois quelques... avancées de la part du gouvernement. Nous, ça fait des années qu'on demandait des projets ratios, c'est-à-dire avoir un ratio suffisant d'infirmières, de préposés aux bénéficiaires pour le nombre de patients qu'ils ont. Puis le gouvernement nous répondait tout le temps, « Ouais, mais je manque déjà d'infirmières, je ne peux pas donner des meilleurs ratios patients-infirmières. » Mais c'est comme un cercle vicieux, cette affaire-là. Si tu ne mets pas de l'avant une garantie pour des infirmières qui vont pouvoir travailler dans un contexte qui leur permet pour eux, pour le patient, qui leur permet de donner le niveau de soins qu'ils veulent aux patients, bien, à un moment donné, ça ne les intéressera plus d'être infirmière, d'être professionnel de la santé. Donc, c'est un peu un cercle. Puis il y a des places dans le monde, la Colombie-Britannique, la Californie, qui l'ont mis en place tranquillement, pas vite, qui se sont dit « on va améliorer nos cibles année par année », puis ça semble porter ses fruits. Alors, ça semble être une des avancées de la négociation. On touche du bois, là, que effectivement, ça va devenir un peu une façon pour les professionnels de la santé de dire oui, ça va être le milieu de travail, une certaine garantie que ça va être le milieu de travail qu'ils souhaitent.
un des enjeux, puis ça, on va le voir en Outaouais très rapidement, un nouvel hôpital de 600 lits, ouais. Ça prend des bras. T'sais, c'est un beau projet, quand est-ce, puis on s'en est déjà parlé, mais ça va prendre des bras. Chez nous, une nouvelle maison des aînés, on ajoute à peu près une trentaine de lits versus le CHSLD qu'on a en ce moment. Ça va prendre des bras aussi. J'ai de la misère à vous concevoir qu'on va être capable de fournir le personnel nécessaire pour faire rouler ces institutions-là dans le contexte actuel. J'ai l'impression, puis j'en parlais avec M. Bilodeau, le nouveau PDG du CIS de l'Outaouais, puis son prédécesseur, il me disait, ben en fait, son prédécesseur me disait qu'il a réussi à mettre un bouchon un petit peu dans le fond du bain, on a réussi à retenir un petit peu de personnel parce que, bon an, mal an, parce que le CIS de l'Outaouais est très bon pour embaucher, mais moins bon pour retenir. C'est peut-être pas de sa faute, là, c'est les conditions du système et tout ça, mais on est capable d'attirer des gens, mais ils s'en vont au fur et à mesure qu'ils arrivent. Ça va être un réel enjeu, là, parce qu'on sait bien beau d'avoir des grandes bâtisses neuves avec plein d'ajouts de lits, mais encore faut-il avoir le personnel nécessaire.
Bien, si on a 4 murs, mais on n'a pas personne à l'intérieur de ces murs-là pour traiter le patient, bien, ça donne pas grand-chose.
Êtes-vous confiant qu'on va réussir?
Bien, je le souhaite ardemment. Est-ce que je suis confiant? Je ne sais pas, parce que le gouvernement n'a pas présenté de plan de ressources humaines dans la région. Moi, c'est ça qui manque, là. On peut avoir le meilleur plan pour construire un hôpital. Si on n'a pas de plan d'attraction, de rétention de ressources humaines, on est un peu mal pris. Puis j'ai l'impression que on a un peu tout mis nos œufs dans le panier de « Ah, ben il va y avoir des nouvelles conventions collectives, il va y avoir une augmentation de salaire, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça donne les conditions de travail nécessaires? » Je pense que c'est le détail qui manque encore. Moi, j'ai hâte de voir la réaction, justement, du syndicat des infirmières. On voit qu'ils demandent à leurs délégués d'accepter, ils demandent au personnel d'accepter. Mais à la fin de la journée, c'est le personnel qui décide de tout ça.
Je sais qu'on entend aussi l'argument des fois de l'attrait du nouveau, que les médecins, le personnel souhaitent aller travailler dans un nouvel hôpital avec du matériel neuf, même chose ici. Donc, il y a ça, mais en même temps, s'il y a un transfert des hôpitaux de Gatineau et Hull vers celui-là, on n'est pas gagnant. Là. On change le problème de place, c'est tout.
Exact. Puis l'hôpital de Hull, il va fermer. Là. L'hôpital de Hull qu'on connaît, là, il va fermer. Donc, ce n'est pas un hôpital de plus qu'on est en train de construire en Outaouais.
Je l'avais pas compris, celle-là.
Il y a une incertitude autour de ce qui va se passer à l'hôpital de Wakefield. Dans les plans officiels du gouvernement, il devient une espèce de centre de réadaptation gériatrique. Donc, on perdrait en théorie 2 hôpitaux pour en construire un très gros. Oui, on gagne au nombre de lits, puis on a une infrastructure nouvelle qui peut contribuer à attirer de la main-d'œuvre. Mais en même temps, l'hôpital civique à Ottawa aussi est en train de construire un tout nouveau campus. Donc, cet attrait-là, il va toujours exister. Je pense que ce qui est important, puis ce qu'on entend depuis des années du personnel de la santé, c'est que ça leur prend une prévisibilité de leur horaire, ça leur prend une certaine assurance qu'ils ne sont pas en train de s'arracher les cheveux à longueur de journée, qu'ils sont capables de donner des soins de qualité aux patients. C'est surtout ça, au-delà des 4 murs, qui est un beau projet quand même, ça en prend un nouvel hôpital. Ça en prend un hôpital avec plus de lits, mais encore là, ça va juste marcher si on a un vrai plan. Moi, c'est ça que j'attends puis que je demande au gouvernement incessamment.
François Legault, le premier ministre du Québec, était de passage il y a quelques temps de cela, il y a peut-être 2 ans, là, du côté de Maniwaki, pour annoncer en grande pompe le transfert de 5000 postes de fonctionnaires en région. Ce qu'on disait à l'époque, c'était que ça se ferait un petit peu par attrition. Finalement, les gens qui quittent leur emploi, au lieu de les afficher au même lieu où eux travaillaient, on les afficherait dans certaines régions. Maniwaki avait été identifié pour accueillir de ces fonctionnaires. On n'avait pas de promesse parce qu'à ce moment-là, le premier ministre disait « Écoute, nous, on n'obligera pas les gens à aller dans certaines régions. On va ouvrir des postes dans certaines régions clés. » Puis les gens auront le choix de décider parmi l'ensemble de possibilités qu'on leur offre. Ce que j'ai su à date, c'est que chez nous, à Maniwaki, on a 0. Il y en a eu pas mal ailleurs, ce qu'on a su du gouvernement, mais chez nous, ça ne porte pas ses fruits. Ça vous énerve un peu, là.
Ça m'énerve. En fait, moi, j'ai un message principal pour M. Legault ce matin, là, pour le gouvernement, c'est que Maniwaki, c'est pas juste bon pour faire des annonces, là. C'est aussi bon pour recevoir des services après ces annonces-là. Et si le gouvernement avait identifié Maniwaki pour faire son annonce nationale pour dire... C'est tellement important pour cette région-là, pour la région de la Haute-Gatineau, d'avoir des fonctionnaires en région parce que ça va aider. Puis effectivement, là, d'avoir des fonctionnaires en région, ça aide l'économie, ça aide les marchands locaux. C'est des bons revenus d'emploi qui sont redistribués dans la région par la suite. Mais ça ne fonctionne pas. On dirait qu'ils ont fait l'annonce, ils sont retournés à Québec, puis ils ont comme oublié que la Haute-Gatineau existait. Si ça peut fonctionner ailleurs, il faut que ça marche ici. Moi, j'attends de voir ces gens-là atterrir dans la région. On ne peut pas juste dire « oui, c'est des emplois qui sont officiellement à Maniwaki, mais que les gens font ça en télétravail à partir de Gatineau, de Charlebourg, de Trois-Rivières ou d'ailleurs. » Il faut un déplacement de personnel. Alors, je demande au gouvernement de faire le suivi de sa promesse parce que ça peut avoir un impact positif ici dans la région.
J'en parlais quand j'étais dans le Pontiac avant. On avait eu une table ronde avec Carlos Letao, l'ancien ministre des Finances, qui était venu il y a ben là, j'allais dire quelques années, mais ça fait plusieurs années maintenant. Puis on s'était jasé, on était une gang de journalistes, puis c'est ça je lui avais dit. J'ai dit, écoutez, pourquoi est-ce qu'on ne transfère pas des postes de fonctionnaires vers les régions? Ce serait, en plus de tous les avantages que vous avez nommés, il y en a un autre, c'est de réduire peut-être le coût des loyers, parce qu'à Montréal, un loyer à Montréal dans une grande tour à bureau pour le gouvernement versus un loyer à Maniwaki, il y a une grosse différence. Fait que juste là, ça serait intéressant. Puis il disait, effectivement, lui parlait plutôt à ce moment-là de la Gaspésie, mais bon... Ouais. Est-ce que 5 000, c'est-tu assez ou est-ce qu'on aurait pu être plus ambitieux? Parce qu'il y en a beaucoup des fonctionnaires au Québec. Là.
Bien, si je me souviens bien de l'annonce de M. Legault quand il était ici, là, il nous avait dit que c'était une première phase. Hein. Il avait identifié un certain nombre d'endroits. Et je me souviens de M. Bussière qui était allé à la radio au CHP justement à Fort-Coulonge et qui avait dit « Faites-vous-en pas, il va y avoir d'autres phases par la suite. Il va y avoir d'autres projets, d'autres villes. » Mais on n'est même pas capable de remplir les promesses qu'on a faites initialement. Alors, oui, j'aimerais ça que ça arrive chez nous aussi, qu'il y ait des fonctionnaires à Fort-Coulonge, mais commençons par remplir l'engagement qu'on a déjà pris, puis après ça, effectivement, on pourra faire la suite des choses, mais il me semble que c'est la moindre des choses. Là, c'est quand tu te déplaces puis dis « c'est la place où on veut faire notre annonce nationale, c'est là que c'est important, c'est un symbole fort », puis après ça que tu fais rien, c'est quand même un gros échec, là. C'est dans tous les dossiers de Maniwaki, celui-là devrait être en haut de la pile pour le gouvernement.
C'est sûr que ça crée beaucoup d'attentes dans le coin quand on a entendu le premier ministre venir ici et l'annoncer. Ouais. Les gens se disaient waouh, hey, qu'est-ce que ça va attirer comme gens, comme personne. Puis finalement, ben, pour l'instant, c'est pas grand-chose.
C'est la pire chose en politique, ça. C'est susciter l'espoir, puis après ça, pas être capable de livrer à la hauteur de l'espoir qu'on a nous-mêmes créé. Alors, au-delà du symbole, là, il y a quand même une région qui a besoin de développement économique, qui a besoin de ces gens-là ici.
J'ai le même sentiment quand je regarde le Canadien de Montréal en reconstruction depuis 15 ans. Ça suscite l'espoir, mais le résultat n'est pas là. Puis c'est frustrant un peu. En terminant, M. Fortin, le programme, il y a la MRC Vallée de la Gatineau qui a adopté une résolution, le Conseil des maires, pour demander au gouvernement de mettre sur pied un programme de prêt pour aider les gens qui sont propriétaires ou qui voudraient acheter une résidence située en zone inondable. Puis d'ailleurs, on a l'impression, en fait, on s'attend à ce que le nombre de résidences situées en zone inondable augmente avec le nouveau plan qui va être déposé. Donc, on n'a peut-être même pas encore la pleine mesure de l'ampleur que cette situation-là pourrait prendre au Québec. Mais assurément que pour bien des gens, l'heure est grave, là. C'est des gens, souvent, c'est leur bas de laine, c'est leur retraite, c'est tout ce qu'ils ont, c'est leur maison, puis ils s'attendent à un jour la vendre pour pouvoir déménager dans une résidence pour personnes âgées ou dans une maison plus petite et tout ça. Ça crée beaucoup d'inquiétudes et on peut pas les laisser, ces gens-là, en plan, puis dire, ben, too bad.
Alors moi, je salue l'apport du Conseil des maires de la MRC de la Vallée de la Gatineau parce que c'est un problème pour beaucoup de gens. Puis je ne veux pas lancer la pierre uniquement à Desjardins. Là. C'est la dernière des institutions bancaires à faire ce changement-là. Mais des assureurs qui refusent de protéger ou de soumettre une hypothèque pour des gens qui sont en zone inondable, à partir du moment où la municipalité, à partir du moment où le gouvernement accepte que ces gens-là se construisent dans ces zones-là, bien, il faut leur donner les mêmes protections qu'à vous, moi, puis n'importe qui. Là. Puis je comprends que ça peut coûter plus cher, que c'est peut-être plus risqué, mais à un moment donné, je ne sais pas si c'est exactement à travers la mesure qui est proposée, mais il faut que le gouvernement, que ce soit le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, qui est en charge des institutions bancaires, là, trouve une façon d'assurer une certaine protection à ces gens-là, parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain dire « bien, vous avez mis toutes vos économies dans quelque chose, puis là, bien, on ne les assure plus, donc si ça passe au feu, si ça inonde, si ça peu importe, vous êtes gros gens comme devant, là, il faut trouver une façon de protéger ces gens-là, puis je peux pas croire que le gouvernement va rester assis sur ses deux mains là-dedans.
Est-ce que vous avez entendu depuis, parce que ça, c'est effectif depuis le 1er février, ça fait depuis hier, ça fait 2 mois. En 2 mois, est-ce qu'il y a eu des discussions à ce niveau-là au gouvernement?
Je comprends qu'on en a discuté, mais je peux pas dire que j'ai entendu une avancée, par exemple. Là, c'est normal qu'ils en discutent parce qu'eux aussi, comme moi, comme député local, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui viennent les voir et qui leur disent ben, « faites quelque chose, ça peut pas rester comme ça ». Mais j'ai pas entendu de solution de la part du gouvernement jusqu'à maintenant, mais c'est un enjeu et la MRC a raison de le faire. J'espère qu'il y a d'autres régions au Québec qui le font aussi, de pousser le gouvernement dans ce sens-là parce que à chaque mois qui passe, ben il y a des gens qui sont à risque. Il y a des gens, puis je comprends que le gouvernement va arriver avec des nouvelles zones inondables qui vont bien délimiter la chose. C'est important de le faire, mais une fois qu'on délimite le problème, c'est aussi important de trouver une solution.
Ouais. Autre chose à dire, monsieur le député?
Non, ben, je souhaite une bonne journée, un bon retour du congé Pascal à tout le monde en Haute-Gatineau. J'espère qu'au cours de mes prochains déplacements vers la région, d'avoir la chance de passer un petit peu plus de temps, jaser avec les mondes ici, prendre le pouls un petit peu plus. Mais quand même, de loin, je suis capable de voir qu'il y a plusieurs enjeux qui pourraient progresser un peu plus pour la vallée de la Gatineau, puis j'espère pousser le gouvernement dans ce sens-là.
Ben écoutez, je vous souhaite bonne chance. André Fortin, vous êtes député provincial du côté de la circonscription de Pontiac. Merci d'avoir fait un petit arrêt par nos bureaux ce matin, c'est apprécié.
C'est un plaisir.
Dans un instant, les nouvelles Cogeco, ça s'en vient, nouvelles nationales et internationales. Et au retour, on parle de l'ajout de cette semaine de relâche en novembre. Quel sera l'effet chez les élèves, chez le personnel, mais chez les parents également, parce qu'une semaine de congé, ça veut dire... Il faut prendre des vacances du travail ou essayer de conjuguer les deux, faire appel à grand-papa, grand-maman, à mon oncle, ma tante. On va regarder comment ça pourrait se faire là, dans les prochaines minutes. Restez avec nous.